Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources traduites en français aujourd'hui pour rendre cette belle pédagogie plus accessible à tous dans toute son authenticité. Une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas été obligés de traduire l'article que je vais vous lire aujourd'hui. Il fut publié dans la Parents Review en 1926 et il était rédigé en français. En effet, Art Middlecoff, fondateur actif de l'équipe américaine de Charlotte Mason Poetry, est un passionné qui cherche et trouve de nombreuses archives de cette revue qui fut la base de travail de nombreuses familles anglaises au début du XXe siècle, éduquant leurs enfants avec la pédagogie de Charlotte Mason. Après avoir discuté avec Art au sujet de cet article, j'ai eu envie de vous le partager ici pour deux raisons. La première étant de vous faire profiter des idées transmises alors par l'une des membres du comité exécutif de la PINIU, qui nous rappelle le lien étroit entre la nature et l'art, si présent dans nos festins d'idées. La seconde raison est que cet article montre le lien particulier que la PINIU a toujours eu avec le monde francophone. Un lien plus que centenaire que notre équipe et notre communauté perpétuent aujourd'hui. Cet article est donc une copie de la communication que Madame Evan Campbell a lue au 8e Congrès international de formation artistique à Bruxelles en 1926. Étant donné que l'événement se déroulait en Belgique, c'est le français qui fut choisi par l'auteur. Art et moi pensons que Madame Campbell l'a écrit elle-même en se basant sur sa propre connaissance de la langue. C'est pour ceci que je vous le livre tel quel. J'ai d'ailleurs été particulièrement touchée par le terme qu'elle a utilisé pour les discussions que nous avons avec les enfants lors de nos picture studies, les études d'œuvres d'art. Elle les nomme joliment « causeries sur les tableaux ». Mais avant de vous livrer les mots de Madame Campbell, je vous propose de relire cet extrait de L'éducation à la maison, le premier volume de Miss Mason, dans le chapitre 7 de la partie 2 qui se nomme « L'enfant apprend avec tous ses sens ». Elle nous disait « Tous ceux qui ont fait preuve d'une remarquable appréciation des formes et de la beauté au cours de leur vie rapportent que leurs premières impressions remontent à une période bien antérieure à celle des idées définies ou de leur instruction formelle. » Je commence donc l'article de Madame Campbell. Pardon. La société d'éducation anglaise PNIU, qui me fait l'honneur de me compter parmi les membres de son comité, attache une importance toute particulière à l'influence de l'art sur l'éducation et réciproquement. C'est pourquoi j'ai été invitée à venir vous exposer en quelques mots la méthode par laquelle nous mettons ces principes en pratique. Nous estimons que l'éducation nous fournit les moyens de présenter aux enfants l'idée de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est sage et de tout ce qui est beau dans la pensée et le savoir de l'homme. Examinons les moyens par lesquels nous espérons inculquer l'amour de la beauté à nos enfants à chaque étape de leur croissance. Pendant qu'ils sont encore tout petits, leur instruction se fait par leurs sens. L'observation inconsciente de la nature cultive leur faculté d'appréciation avant même qu'ils ne soient assez âgés pour s'en rendre compte. Nous les emmenons au jardin ou dans les bois et nous leur suggérons la jouissance que nous éprouvons à la vue des formes et des couleurs variées, des fleurs, des arbres et de leur feuillage, des effets de soleil et d'ombre, des nuages dans le ciel, à entendre les chants des oiseaux, à respirer les parfums de l'été. Ils y prennent un plaisir intense et inconsciemment, ils apprennent à discerner. Afin de rendre cette faculté d'observation voulue et consciente, nous chargeons l'enfant de nous rendre compte de ce qu'il a vu et observé au cours d'une promenade. Que ce soit en été à la campagne, il nous décrira au retour les moissonneurs qu'il aura vus au travail, les attelages de beaux chevaux de labour, etc. Pour l'enfant qui habite la ville, ce sera beaucoup plus difficile, mais on trouvera moyen de le promener dans le bois ou dans les parcs et de l'intéresser lui aussi aux beautés de la nature. On a de plus, en ce qui concerne les petits citadins, l'occasion de leur faire remarquer de bonne heure les formes architecturales. C'est dès leurs premières années qu'il nous faut entourer nos enfants de beauté. Nous ne leur donnons donc que des jouets simples et bien faits, évitant toujours ce qui est grotesque et laid. Nous pouvons faire en sorte que non seulement les tableaux suspendus au mur, mais aussi les illustrations de leurs livres soient bien dessinées. Les meubles dans les chambres des enfants peuvent être absolument simples, mais il ne faut jamais qu'ils soient disgracieux. Anatole France nous dit que, dans Le crime de Sylvestre Bonnard, je ferai de cet enfant non pas une savante, car je lui veux du bien, mais une enfant brillante d'intelligence et de vie, et en laquelle toutes les belles choses de la nature et de l'art se reflétiraient avec un doux éclat. Je la ferai vivre en sympathie avec les beaux paysages. Je lui rendrai aimable tout ce que je voudrais lui faire aimer. Il nous faut ensuite enseigner à nos enfants le travail manuel. Donnons-leur des fleurs et des fruits de toute espèce à modeler avec de la cire ou de l'argile et encourageons-les à copier avec leurs pinceaux les fleurs sauvages qu'ils cueillent. Nous voulons arriver à ce que, dans l'esprit de l'enfant, l'idée de l'art soit liée avec celle de la nature. L'enfant capable de discerner la pureté des formes et des couleurs la cherchera plus tard dans la sculpture et le dessin. Il est important que l'élève fasse lui-même des essais, non seulement pour développer l'expression individuelle, mais parce que cela le préparera à étudier les œuvres des artistes et constituera une introduction aux principes de la technique. Supposons maintenant l'enfant arrivé à l'âge où il commence à faire des études sérieuses et variées. Plusieurs de ces études doivent contribuer à augmenter sa compréhension de l'art. Dans le programme de la société éducative que j'ai l'honneur de représenter ici, se trouve un cours spécialement intitulé « Causerie sur les tableaux ». 6 reproductions, bien faites, d'après les grands maîtres, sont étudiées chaque trimestre. On choisit quelquefois un artiste contemporain de la période qui fait le sujet du cours d'histoire. En été, ce sera souvent un paysagiste. Les élèves examinent à chaque leçon une de ses copies, seule, et aussi sous la direction du professeur. La gravure étant ensuite recouverte d'une feuille de papier, les enfants la décrivent à haute voix et peuvent à leur gré essayer d'en reproduire quelques détails au crayon. Il témoigne un vif intérêt à l'histoire du tableau. Le célèbre tableau de Giotto représentant Saint François d'Assise et les petits oiseaux est toujours bien accueilli à cause du récit dont il est accompagné. Il est étonnant de constater à quel point les enfants, encore tout jeunes, sont capables d'apprécier les plus beaux tableaux. Une de mes filles, à l'âge de 5 ans, était enthousiasmée par une sainte famille de Léonard de Vinci. Les élèves étudient aussi pendant le cours entier quelques 25 artistes choisis parmi les grands maîtres italiens, les écoles hollandaises, françaises et anglaises. Il va sans dire que ces enfants se familiarisent à tel point avec les copies qu'ils sont prêts à reconnaître et à apprécier les œuvres originales quand ils les retrouvent dans une galerie ou dans un musée. L'étude de l'histoire et celle de la géographie ont une très grande valeur par rapport à ce sujet. Nos élèves y retraceront la naissance de l'art dans les nécessités et dans les aspirations humaines. Nos ancêtres, même les plus lointains, nous ayant laissé des traces de leur tendance artistique sous forme de dessins grossiers dont ils ornaient leurs outils, qui représentaient parfois des animaux. Faire connaître un peu les climats, les conditions et les mœurs religieuses et civiles des peuples anciens, c'est leur faire comprendre les raisons d'être du style. Par exemple, cela les intéresse d'apprendre que le dessin du pylône égyptien probablement était inspiré par la forme des habitations du peuple. En effet, les murs en étaient nécessairement construits en pente parce que les briques crues, dont on se servait primitivement, ne pouvaient supporter beaucoup de poids. Les élèves avancés constateront avec plaisir les rapports visibles qui unissent l'architecture grecque, si pure, si harmonieuse, si précise, et l'esprit même des Grecs, si fin, si élégant et si propre aux définitions exactes. À ce propos, nous cherchons également à enseigner aux enfants le rapport d'une œuvre d'art avec son milieu. Un monument bouddhique, dont les bijoux incrustés brillent au soleil de l'Orient, n'aurait point le même attrait s'il se trouvait placé dans l'atmosphère brumeuse de l'Angleterre. Remarquons aussi que toute instruction sérieuse et suivie cultive la mémoire, et que ce n'est que par la mémoire qu'une œuvre dépeignant le mouvement est possible. Citons comme exemple la victoire de Samothrace, où la vitalité triomphante d'un instant fugitif se trouve fixée à jamais par le ciseau de l'artiste. J'ai voulu montrer que notre but est toujours de présenter à nos enfants la beauté essentielle et vivante aussi bien que la vérité et que la sagesse. Cherchons dans Platon pour qu'il nous dise comment la contemplation de la beauté des formes naturelles nous mène petit à petit à la réalisation de la beauté parfaite et que dans la contemplation de cette beauté, l'âme enfin se repose. Voilà. J'espère que cet article vous aura inspiré. Je vous laisse à vos propres réflexions et je vous retrouve plus tard pour un nouvel épisode.